Jean Richepin, l'horloge. Avec sa voix grave et un peu fêlée, au timbre mélancolique, dans l'air calme du soir qu'il déchirait d'un brusque sanglot, le premier coup de 7 heures tinta au clocheton de l'hôtel de ville. Tels des soldats à l'exercice, et dont le geste automatique se déclenche sur un commandement, tous les promeneurs du mail firent halte, mirent la dexte à leur gousset, tirèrent de ce gousset une montre, regardèrent l'heure au cadran de cette montre, remirent la montre dans leur gousset, en hochant la tête tristement, et levèrent les bras au ciel. Puis, d'une voix au timbre mélancolique, comme celui de la cloche, presque avec des sanglots, comme ceux qui continuaient à déchirer l'air calme du soir, ils se dirent les uns aux autres en groupes éplorés. « Moi, je marque 7h05. »« Ah, moi, 7h05. »« Moi, 7h02. »« Moi, 7h03. »« Moi, 7h01. »« Oh, moi, 7h01. » Mais aucun, absolument aucun, ne marquait 7h juste. Et comme à ce moment apparaissait sur le mail, se dirigeant vers l'église des Génovéfains, un vieil homme, tous les regards fusillèrent ce vieil homme de reproches qui, pour être silencieux, n'en était pas moins indigné, quelques-uns allant jusqu'à lui manifester non seulement de l'indignation, mais du mépris, et certains même une véritable horreur. Ce vieil homme ne présentait pour rien, ni dans son allure, ni dans sa physionomie, qui sembla pouvoir inspirer une antipathie aussi violente, aussi peu déguisée, aussi unanimement vengeresse. Il était vêtu de la façon la plus décente et qui dénotait le plus respectable des bourgeois. Ses souliers étaient gros mais bien cirés. Son pantalon un peu trop court n'avait point de franges. Sa redingote un peu trop longue n'en donnait que plus de majesté à sa haute taille. L'âge d'ailleurs n'avait pas courbé cette haute taille que le vieil homme redressait avec cette fierté spéciale apanage d'une conscience droite. Son visage, entièrement rasé, pâle sous de longs cheveux blancs, ne se contentait pas de respirer, comme on dit, l'honnêteté. Il la transpirait positivement. Et les deux gouttes les plus lumineuses de cette vénérable transpiration, c'étaient les deux yeux du vieil homme, deux yeux de pur diamant, où resplendissait à la fois l'exaltation d'un mystique, la candeur d'un enfant, la sérénité d'un patriarche et la vaillance d'un héros. Alors, quelle raison secrète pouvaient donc avoir tous les promeneurs du mail et par leur muet truchement toute la ville de manifester à ce vieil homme tant d'indignation, tant de mépris, voire de l'horreur? C'est ce qu'on va commencer à comprendre un peu, ou du moins à subodorer, quand on saura que ce vieil homme était l'unique horloger de la petite ville, que toutes les horloges, pendules ou montres de la petite ville étaient réglées par lui, qu'il les avait toujours fait marcher tout admirablement pendant plus de 30 années, et qu'à présent, il les négligeait. Mais pourquoi les négligeait-il à présent? Par quelle brèche avait fui son honorabilité professionnelle en déroute? Comment, en un Plonville, cet or pur s'était-il changé? Ah, voilà! C'est toute une histoire. Écoutez plutôt les réflexions des gens. « Oh, tenez, il va encore passer la nuit à l'église des Génovéfains. » Oh, il n'en a pas jusqu'à demain matin avec sa folie. Alors, naturellement, pendant le jour, il n'en peut plus. Mais il rhabille les montres à la va comme je te pousse. Et il dort sur les pendules au lieu d'y veiller, comme jadis. Même l'horloge de l'hôtel de ville, il s'en occupe point. Il n'a plus soin que pour sa vieille détraquée de là-bas. Et à quoi bon, je vous le demande, il est fou, il est archi-fou. Bien sûr, puisque les plus malins y ont perdu leur latin. Et il y perdra, lui aussi, plus que son latin, je vous en réponds. D'abord sa clientèle, n'est-ce pas, hein, 6 mois. Ah, moi, pareillement, parbleu, qui vienne seulement s'établir ici un autre horloger, et on verra bien à la fin des fins. Il en viendra, hein, la Saint-Jean, on me l'a affirmé. Tant pis pour le père Bringard, il crèvera de faim. À moins qu'auparavant, il ne soit assommé par sa vieille. Oh, ça pourra bien lui arriver aussi. Il y a du danger, là-bas. Oh, non seulement du danger, à cause des machines, vous savez. Oui, oui, non, je sais, à cause des légendes encore plus. Parfaitement, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, enfin, toujours est-il que nos pères n'étaient pas plus bêtes que nous, hein, eh bien, ils croyaient, eux, fermement qu'on ne peut pas y toucher sans que ça vous porte malheur. N'empêche que voilà encore le vieux Toquet qui va courir le guillidou toute la nuit avec sa donnée sorcière de vieille gueuse d'horloge. Car c'est d'une horloge qu'il s'agit. À l'église des Génovéfains est une antique horloge de celle que fabriquaient au Moyen-Âge de patients ouvriers, y consacrant leur existence entière, y multipliant les rouages, les poulies, les poids, les contrepoids, afin qu'aux heures de l'Angélus, on y entendît chanter d'interminables aiguës carillons, tandis que du cadran, ouvert comme un tabernacle, sortait Madame la Sainte Vierge, à qui l'ange Gabriel faisait la révérence, et devant qui défilaient en lente procession mes seigneurs les saints apôtres, 6 à l'Angélus du matin, 6 à l'Angélus du soir et les 12 à l'Angélus de midi. Or, elle était, et depuis des ans et des ans, autrement dire depuis toujours, elle était détraquée, l'antique horloge de l'église des Génovéfains. Il y avait en effet là-dessus des légendes, comme quoi le maître horloger qui l'avait construite n'en était venu à bout qu'avec l'aide du diable, comme quoi, après un certain temps révolu, le diable avait arrêté l'horloge, comme quoi le secret en était perdu pour toujours, et que malheur arrivait à quiconque voulait retrouver ce secret, et une ribambelle d'histoire brodée à ce propos par l'imagination populaire. Certes, au jour d'aujourd'hui, on n'y croyait plus guère à ces légendes et à ces histoires, mais quelques-uns encore en parlaient, plutôt pour en rire. Mais le père Bringard, lui, n'en riait point, et à force d'y penser, après 30 années de longue méditation, il avait fini par y croire. Il croyait notamment ceci, que l'âme du maître horloger de jadis était captive du diable, depuis que l'horloge ne marchait plus, et que cette pauvre âme serait délivrée quand de nouveau l'horloge marcherait. Et beaucoup grâce à cette charitable espérance, un peu aussi par orgueil de bon horloger, il s'était attelé à la besogne de raccommoder l'horloge, y mettant toute son ingéniosité patiente et toute sa foi. Aux très rares amis qui lui restaient, et qui avait pitié de sa folie et qui essayait de l'en guérir, il répondait avec assurance « Oh, j'y arriverai. J'ai déjà fait ceci et cela, encore un poids trouvé exact d'un métal particulier, l'horloge marchera, vous verrez bien. » Cependant, il y employait tout son temps et ses nuits désormais, et négligeait toutes les horloges, pendules et montres de la ville, et devenait un objet d'indignation, de mépris, voire d'horreur, mais n'en avait cure, et redoublait d'efforts vers sa chimère, voulant l'atteindre avant de mourir, et pensait chaque jour davantage être sur le point d'y atteindre, et parmi les groupes hostiles, passait en répétant comme un refrain « Oh, cette nuit j'aurai fini sûrement, ce sera pour demain à midi, l'horloge marchera, demain à midi !» Et les jours se succédaient sans que marchât l'orange. Et maintenant, les galopins suivaient le père Bringard dans les rues en glapissant. « Ouh, l'as-tu fait marcher, la berlue ? Demain à midi !» Et pourtant, voilà qu'un beau jour à midi, du beffroi de Génovéfains, s'envola le carillon, ding, ding, dong, chantant sa joyeuse chanson, tandis que le cadran de l'horloge, ouvert comme un tabernacle, sortait Madame la Sainte Vierge, à qui l'ange Gabriel faisait la révérence, et devant qui défilait la lente procession de mes seigneurs, les 12 apôtres. Miracle, miracle, on courait par toute la ville, on cherchait le père Bringard pour lui faire ovation, on criait que c'était la gloire du pays, on s'extasiait devant l'horloge ressuscitée, des mécréants en pleuraient de joie. Mais le père Bringard n'entendait plus rien, ne voyait plus rien. À l'une des chaînes de l'horloge, en guise de poids, délivrant l'âme du maître ouvrier de jadis, faisant enfin marcher sa chérie, le vieil homme s'était pendu.